Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h, émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Et on va commencer par parler de quoi ? Du social, ni plus ni moins. Il faut pas oublier qu'il y a une grève qui démarre le 7 mars, justement contre la réforme des retraites. Après, on ira jusqu'au Mozambique, au nord du Mozambique plus exactement, plus d'un million de déplacés victimes des attaques terroristes. Et on sera avec le directeur général de l'ONG Solidarité Internationale. Et bon, on va essayer d'alléger tout ça, parler des communautés portugaises au sujet du Conseil des communautés. Et trois projets de loi, ni plus ni moins, qui sont dans le Parlement portugais. Et on parlera également de ballet avec la Compagnie Nationale de Ballet Portugaise, dans laquelle il organise un spectacle. Et on trouve quoi? La compagnie illicite de Bayonne de Fabio Lopez. Et après, on va parler de lutte contre les incendies, mais également pour la défense du l'environnement. C'est très important. On ira jusqu'à Cantanhede, au centre du Portugal. Mais on va essayer d'atterrir, bien que on va parler de quoi? De train, ni plus ni moins, mais plus que ça. Monsieur Yann Piroli, bonjour et merci d'être avec nous dans les studios.
Bonjour à vous et merci de votre invitation.
Alors, vous êtes responsable syndicat CGT cheminot. Alors, une question, bon, un peu provocatrice. Est-ce que le transport ferroviaire public en France a encore un futur?
Très bonne question. Un futur sûrement tourné vers le privé, mais un futur qui n'est pas tourné vers les services publics et un dysfonctionnement, je pense, pendant au moins une dizaine d'années minimum.
Oui, mais ça date pas d'aujourd'hui, ce problème.
Le manque d'investissement, effectivement, ça date d'il y a 30 ans. La preuve, c'est que notre première ministre vient de s'apercevoir qu'il y avait un tel dysfonctionnement, qu'elle est sur 100 milliards d'euros jusqu'en 2040 pour des investissements. Et je pense que c'était plus que nécessaire, mais ce geste-là aurait dû être fait bien avant.
Et pourtant, les transports s'y connaissent.
ou pas. On peut pas dire qu'elle ait laissé effectivement un souvenir indélébile chez nous et que les décisions, elle aurait pu les prendre bien avant. Et elle ne l'a pas fait, ce qui a entraîné encore plus de dysfonctionnements. Et on arrive en ce moment à des solutions qui sont, pour que ça aille mieux, il faut privatiser. Sauf que privatiser, dans un premier temps, je pense pour les gens qui écoutent, les usagers, c'est peut-être une bonne solution parce que la SNCF n'arrive plus à faire. En fait, quand on est à l'intérieur du système ferroviaire, c'est pas une bonne solution et ça ira pas mieux, hélas.
Oui, après, bon, à qui appartiennent les voies ferrées, bon, c'est encore une autre affaire. Mais justement, parlons des transports. Les petites lignes sont disparues. Le fret est pratiquement disparu également. Quand on parle des passagers, des usagers, je veux savoir si je suis un usager ou un client. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de disparaître. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la route qu'on va privilégier, pollution et tout ça?
Exactement. Il y a des pays comme l'Autriche ou la Suisse où ils ont fait un choix très fort politique, c'est-à-dire de mettre sur le rail justement pour préserver justement leur route, pour préserver leur écologie. Et puis aussi du fait que c'est moins cher à un moment donné. Ça, on n'en parle jamais. On nous amène toujours sur le fait que effectivement faire rouler des trains de fret, c'est cher. Or, non, c'est le contraire. C'est moins cher que la route. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Par exemple, un routier, il ne paye pas... Enfin, une entreprise routière ne paye pas les travaux qu'il y a sur les routes, sur les nationales. Effectivement, il les paye un petit peu quand il utilise l'autoroute par le péage, mais les nationales, non. Voilà. Après, effectivement, si on parle de la situation du fret en France, on peut parler du Perpignan-Rungis, où effectivement, il y a une forte mobilisation de la CGT sur la relance de ce train, qui est franchement une aberration de le supprimer. Ça supprime, je sais plus, je crois que ça supprimait 100 camions sur comment une semaine. Enfin, faut s'apercevoir quand même que la fermeture du triage de Villeneuve-Saint-Georges, qui est à côté de chez vous, a emmené un train, c'est 30 wagons, 35, 40. Voilà. À chaque fois, c'est 60 camions sur les routes supplémentaires. On a supprimé le triage de Villeneuve-Saint-Georges. On a fermé, on a tout mis sur la route. On s'aperçoit maintenant qu'il y a un engorgement du système routier, qui plus est dans le Val-de-Marne, puisque nous avons la plateforme de Rungis qui reçoit tous ces camions, qui les recevait par le train à un moment donné. Ouais. Et ce qui est pire, c'est quand vous rencontrez les gens à Rungis, hein, le directeur du mine, ou alors que vous rencontrez des présidents de grosses boîtes là-bas, des directeurs de grosses boîtes, vous disent « Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le train ». Sauf que l'État ne met pas un outil qui correspond aux attentes des du président du mine de Rungis et même des directeurs.
Oui, mais à un moment donné, ils ont dit, le gouvernement, on va reprendre le train, il va rouler à nouveau. Il roule ou il roule pas ?
Il roule. Sauf que je pense que, hélas, tout n'est pas mis en place pour aller chercher des nouveaux acteurs qui pourraient remplir le train, qui pourraient en faire d'autres. D'ailleurs, on nous disait que le train était vide quand il redescendait sur Perpignan et que c'était ça qui causait le dysfonctionnement, parce qu'il redescendait sans rapporter d'argent. Or, c'était faux. Pourquoi on peut être à l'aise quand on dit que c'était faux ? C'est parce que quand un tractionnaire monte dans son train, il sait combien le train il pèse. Donc, il sait la composition du train. Mmh. Et on s'apercevait, en fait, que jusqu'aux trois quarts de l'arrivée, le train était complet, puisque la SNCF descendait pour Géodis. Sauf qu'on nous disait qu'il descendait à vide. Donc, c'était encore un nouveau mensonge.
Alors, Géodis, c'est une filiale de SNCF. Alors, quand on parle de transport, train, bon, on parle des trains, il faut parler du personnel. Parce que dans plein de gares, il n'y a plus personne. Plus personne. Les gares sont fermées, donc on a des machines, on n'a plus personne. Dans le temps, bon, il y avait toujours le chef de gare, il y avait tout ça. C'est disparu. Même dans les trains, et sans oublier le reste, la maintenance, etc. Bon, quelle est la situation ? Parce que, apparemment, bon, les gens, les travailleurs, les cheminots, ils disent bon, on ne tient plus, on n'assure plus la sécurité des usagers.
La situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique, mais elle est aussi en lien avec ce qu'on veut faire de la SNCF, c'est-à-dire une privatisation et séparer le tout. Avant, c'était une entreprise unique. Maintenant, on se facture entre nous. C'est-à-dire que quand vous avez la surveillance générale qui passe sur un quai de gare le soir, ça facture à la gare. On en est là. Ça se facture à Île-de-France Mobilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choix. Les choix, ils ont été clairs. Trop de guichets. Ben, ça coûtait trop cher. Donc, on a décidé de mettre des machines. Donc, la personne qui était pas très à l'aise avec l'informatique, elle a été obligée de s'y tourner quand même, parce que sinon, elle prenait pas son train. Ou alors, il fallait qu'elle aille, par exemple, Gare de Lyon, pour acheter son billet. Sauf que, Gare de Lyon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de supprimer les machines. Pourquoi ils suppriment les machines Gare de Lyon ? Parce que la location de la place de la machine coûte trop cher. Donc, on va se retrouver avec très peu de guichets, puisqu'il en reste, mais très peu. Plus de machines, parce que la location du sol coûte trop cher pour mettre une machine dessus. Donc, on va encore avoir un dysfonctionnement des guichets, puisqu'il y aura de plus en plus d'attentes. Des fois, Gare de Lyon, il y a 50, 60 mètres de queue. Les gens sont énervés, agacés. Et on peut le comprendre, hein, franchement. Perdre du temps pour avoir un nouveau ticket, c'est quand même embêtant. Et puis aussi, le fait de se tourner de plus en plus vers Internet. Sauf que vers Internet, ça fait pas tout, quoi. Même si, effectivement, l'application... Il y a eu des améliorations, mais ça fait peu de tout. Les gens ont besoin d'un lien, ont besoin de se faire comprendre quand ils ont un problème.
Oui, pour faire ça, il faut avoir un super téléphone qui coûte plusieurs centaines d'euros. Je pourrais continuer comme ça. Mais justement, alors, bon, j'aimerais bien qu'on parle de la réforme des retraites. On est des usagers ou des clients. Quand ça ne va pas, on est des usagers, on est pris en otage par les cheminots, etc. Quand ça va bien, bon, on est des clients. Mais un client a aussi des droits, mais on est devenu quoi, nous, les usagers, les utilisateurs des trains ?
Alors, je pense que les usagers, c'est les derniers à qui on pense, en fait. C'est les derniers à qui on pense parce que les usagers, ils ont besoin de partir d'un point A, d'arriver à un point B et à l'heure. La plupart des grèves qu'on a fait à la SNCF étaient justement pour dénoncer le dysfonctionnement qui est en train d'apparaître. Vous me parliez du matériel et de la réparation du matériel et de la réparation des rames. De moins en moins de personnel, de moins en moins de gens formés, de plus en plus d'appels à des sociétés privées pour le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la société privée arrive, elle coûte 2 à 3 fois plus cher que si c'était un cheminot qui le fait. Et en plus, enfin, je veux pas être désagréable, mais souvent, et je vous jure que c'est vrai,
ils sont pas formés pour ça,
parce que autant Alstom est formé pour construire un train, mais il n'est pas formé pour la maintenance du train. Et ça, c'est incroyable. Les gens ont du mal à comprendre quand on leur explique. C'est tellement flou. Et donc, on a de moins en moins de gens. Après, on avait un statut et on avait aussi avec le statut, il y avait aussi des subtilités. Je vais l'expliquer. Vous savez, le statut me permettait à moi de dire quand un train ne marchait pas ou qu'il y avait une pièce qui n'avait pas été changée, que ça pouvait être dangereux, de ne pas faire rouler ce train. Si mon chef me mettait la pression pour qu'il sorte, moi, j'étais sûr de moi, je ne pouvais pas me faire virer pour ça. Depuis 2020, on ne recrute plus au statut. Exactement. Donc, on passe en CDI. Les gens se disent, ah ben tiens, les feignasses, au moins, ils auront pu se bouclier et ils vont pouvoir se mettre à travailler. Non, c'est pas ça. C'est que les gens qui sont pas au statut, des fois, il y a des gens qui viennent derrière eux et qui leur disent, cette rame, tu la sors. Et le gars, il est obligé de la sortir, parce que sinon, effectivement, il peut se faire licencier. C'est ça qui est incroyable, et c'est une dérive qui est en train de s'installer.
Voilà. En détriment de la sécurité des passagers. Alors, justement, on peut faire le relais. On parle du statut de la SNCF. On parle beaucoup des régimes spéciaux. Parce que la SNCF a un régime spécial. Bon, c'est le cas de le dire. Bon, les sénateurs aussi, hein. Mais par rapport à ce régime, avec la réforme des retraites, automatiquement les cheminots sont obligés de travailler 2 années de plus. C'est ça que dans les cartons.
Au mieux.
Au mieux.
Au mieux 2 années de plus. Ouais. Au moins bien, beaucoup plus. Moi, je pense que il y a une souffrance au travail, et cette souffrance au travail, elle se concrétise par le fait que les gens disent « Oh, bon, allez, il me reste plus que 2 ans, il me reste plus que 3 ans à faire, parce que là, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, ça ne correspond plus au travail que j'ai connu avant. » Là, on se retrouve avec des gens qui disent « Ah ben non, c'est plus 2 ans, c'est 4 ans. C'est plus 2 ans, c'est 6 ans. » Et effectivement, ça dysfonctionne. Les gens sont cassés par le travail, mais enfin, on parle des cheminots, mais on pourrait aussi parler, par exemple, des routiers qui sont cassés par leur train de vie, qui sont cassés par leurs horaires, qui sont cassés par le fait qu'ils dorment dans une cabine et que c'est des fois moins confortable que dans un lit, avec des horaires qui sont étirés très longtemps. Et des fois, ils ne peuvent plus, justement, faire leur travail. Et on leur dit quoi ? Moi, j'ai un cas dans la tête, là, où on est en train de vouloir licencier la personne, et ça veut dire qu'il lui restait 4 ans à faire, et donc il va connaître 4 ans de chômage dans 2 ans supplémentaires, alors que enfin donc sa retraite elle va être moindre. Oui, effectivement, quand on entend des gens qui sont députés ou sénateurs et qui prônent justement tout ça, ils ont un régime spécial et on leur attaque jamais ce régime spécial.
Vous voulez dire que finalement la pénibilité n'est pas là-dedans, parce qu'apparemment il y avait 7 autres choses qui ont été annulées par le premier gouvernement Macron.
Exactement. Ce qui est formidable, c'est que maintenant, vous avez des déménageurs. En fait, la pénibilité du travail en portant les charges lourdes a disparu. Donc, en fait, et d'ailleurs, c'est les premiers qui se plaignent. C'est-à-dire, moi, à partir de 58 ans, la plupart n'arrivent plus à soulever parce qu'ils sont cassés par un métier très difficile. Effectivement, quand on fait grève, pour certains qui ont des métiers comme ça, ils ont l'impression qu'on les embête de travailler, qu'on les empêche de travailler. Bien sûr, parce que souvent, eux n'ont pas les moyens, justement, de se plaindre comme ils devraient se plaindre. Et c'est ça qui est terrible. On nous monte les uns contre les autres. Ce qu'il faut penser, c'est que là, et le 7 mars, il faudra qu'il y ait un mouvement de grande ampleur partout pour que ce gouvernement comprenne. On a un gouvernement qui ne nous comprend plus, qui ne comprend plus les... Alors, ce que je vais dire, c'est pas bien, les petites mains, comme ils les expliquent quand ils viennent vous voir, vous êtes les petites mains.
Oui, les premiers de cordée quand ça les arrange.
C'est ça. On se rappelle que nous, on était comme les hôpitaux, c'est-à-dire que les hôpitaux, ils sont en train de dire, il nous manque du personnel, il nous manque des lits. Oui, mais faut qu'on fasse des économies. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment des lits, ils suppriment du personnel. Enfin, c'est incroyable. On va à l'inverse de ce qui doit être fait.
Mais le gouvernement dit, attention, on va à la faillite du système de répartition des retraites. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il faut dire que les 8 centrales syndicales sont unies depuis déjà pas mal de semaines, chose qu'on ne voyait pas depuis des décennies et des décennies. Le gouvernement a du mal à récupérer un ou deux syndicats, mais le gouvernement dit, bon, attention, système en danger.
Alors, je pense qu'avec le temps et les explications qu'il y a eu sur toutes les chaînes de télé, on s'est aperçu qu'on nous mentait. Enfin, on va être clair là-dessus. c'est vraiment un choix de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut profiter 2 ans et en bonne santé d'une retraite, ou alors est-ce qu'effectivement, enfin, à part le gouvernement, tout le monde dit que le régime des retraites est en bonne santé. Effectivement, il faut améliorer certaines choses. Mmh. Je vais être un peu dans la provocation, mais enfin, il y a 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, et c'est aux gens qui touchent le moins de mettre l'argent à la poche pour récupérer 12 milliards qui manqueraient. Enfin, mais on plaisante. C'est-à-dire que c'est toujours aux gens qui font le plus d'efforts et qui sont en plus dans la souffrance dans leur métier qu'on va redemander encore des efforts.
Mais à ce moment-là, parce que bon, il y a un trou, qu'on veuille ou pas, il y a un trou. Comment le boucher? Bon, il y a les dividendes, il y a les super profits. Bon, j'en passais les meilleurs. Il y a la cotisation patronale qui a été réduite depuis plus de 7 ans d'années. Mmh, mmh. Mais bon, quelqu'un doit payer. Et le gouvernement, il dit, ben voilà, tout le monde fait des petits efforts.
Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que, et je le répète, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui font les efforts. C'est toujours les mêmes qui font les efforts quand, par exemple, il y a le Covid-19 et que on demande à ces petites gens de sortir, d'aller travailler sous la contrainte. C'est pas sous la contrainte. Ils doivent aller travailler. Comme les cheminots ont continué à travailler pendant le Covid parce que c'était un service public. On devait rendre service aux gens pour aller au travail quand ils devaient y aller. C'est à eux qu'on va demander les efforts. Et les super profits, on leur demande plus rien. Il y a des riches, il y a des milliardaires qui demandent à être plus taxés. Non. Non, non. Eux, on va pas les taxer, c'est des amis. On pourrait développer comme ça pendant longtemps. Moi, je suis pas pour rentrer dans ces trucs-là. Il y a des solutions différentes et on ne les applique pas. Comment on fait pour les appliquer? Quand on nous dit les cotisations sociales, on va les baisser. Mais les cotisations sociales, c'est la sécurité sociale. Est-ce que les gens se rendent compte que quand ils iront à l'hôpital, ils paieront plus parce qu'il y aura moins de sécurité sociale? Non! Non! Mais c'est, faut leur expliquer. Les gens disent, oui, mais au moins, on sera, augmenté. Ah bon, on sera augmenté. Mais tu seras augmenté, mais ça coûtera toujours plus cher quand tu iras à l'hôpital. Et l'hôpital sera de moins bonne qualité puisqu'il n'y aura plus de service public hospitalier.
Ou alors on ira dans le privé. Mais justement, la sémantique, des fois, ça dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de cotisation sociale.
Oui.
Les ministres, etc., ils parlent de charges sociales. Hum? Alors, est-ce que finalement les cotisations, c'est pas un salaire différé, en quelque sorte?
Alors,
quand on parle des retraites, etc., bon, c'est un salaire différé, ça, quand on cotise, non?
C'est bien le problème de la sémantique entre les députés, les sénateurs, souvent de droite, hein, on va pas se mentir, que des sénateurs et des sénatrices de gauche, qui eux ont compris, bien sûr, on n'a pas à leur expliquer. D'ailleurs, au passage, si vous pouvez me permettre, quand même bizarre que ce soit toujours les mêmes qui viennent voir les ouvriers ou les petites mains, mais nous on n'a jamais accueilli, par exemple sur le site de Villeneuve-Saint-Georges, des députés de droite ou des députés de La République En Marche pour venir voir comment on travaillait, dans quelles difficultés on travaillait. D'ailleurs, le seul qui a voulu venir, c'était le député qui était à Choisy-le-Roi, et on a eu une discussion avec lui. Il a pris 4 pages de notes, et quand il me dit je pourrais venir avec vous pour voir ce que vous me dites, je dis oui, mais alors si effectivement c'était pour la réforme du ferroviaire, je dis mais si vous constatez que ce que je vous dis est vrai, faudra voter différemment que ce que Macron vous demande de venir. Il m'a regardé, il m'a fait bon, je pense que c'est pas la peine que je vienne. Vous voyez, voilà. Mais effectivement, les élus parlent de salaires différés ou de charges sociales. On va être clair, parce que des fois on s'y perd, et vos auditeurs sûrement s'y perdent, parce que c'est un peu compliqué pour eux. Ce qui nous permet d'avoir une sécurité sociale, c'est quoi? C'est justement ça. Si on le supprime, on n'en aura plus. Donc, on est en train de passer d'une sécurité sociale à des boîtes privées, parce qu'ils veulent qu'on aille dans des boîtes privées pour préparer notre retraite, pour préparer nos soins. C'est pas des retraites complémentaires qu'ils nous demandent. C'est de s'organiser pour pouvoir se soigner. Et la sécurité sociale, au fur et à mesure du temps, ils veulent qu'elle soit beaucoup moindre.
Mmh. D'ailleurs, à propos de retraite complémentaire, qui c'est qui gère les retraites complémentaires? En principe, c'est les syndicats et le patronat, non?
Oui.
Donc, apparemment, une bonne gestion.
Très bonne. Bien sûr. Mmh. Les retraites complémentaires, enfin, si c'est ça la solution à notre répartition des retraites, il y a un Conseil national de la résistance qui, à la sortie de la guerre, fait la sécurité sociale. pourquoi et dans quelles conditions. Là, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, alors qu'on a un CAC 40 qui se goinfre de dividendes.
90 milliards l'année dernière de dividendes.
90 milliards.
Milliards
est-ce
environ.
Que les gens se rendent compte de ce que
non,
c'est que 90 milliards?
Il y a beaucoup trop de zéros.
Voilà. Alors que quand le Conseil national de la résistance crée justement toutes ces choses-là, mais il y a zéro euro. On part de rien. On part d'une feuille blanche. Et effectivement, on va voir les grandes entreprises en leur disant, il va falloir que vous mettiez la main à la pâte pour justement aider. Il y a des profits qui se font grâce aux ouvriers. Grâce aux ouvriers qui viennent tous les matins et qui s'usent au travail.
Maintenant on parle de la valeur travail. Apparemment, il y a un certain nombre d'élus, pas seulement, qui reconnaissent plus la valeur travail. Mais je mets un truc. Qui c'est qui crée la valeur?
C'est les ouvriers. C'est les gens qui se lèvent tous les matins. C'est les gens, effectivement, qui viennent, qui sont souvent les moins bien payés. C'est des gens qui souvent font des grands efforts. Vous savez, quand vous voyez, je vais parler de la situation matérielle. On a de moins en moins de gens. Mais par contre, les gens qui travaillent sur le site de Villeneuve-Saint-Georges habitent souvent à une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie de transport. Pourquoi? Parce qu'avec le salaire qu'ils ont, ils n'ont plus les moyens de se payer un loyer le plus proche de leur lieu de travail. Et ça, c'est le sacrifice qu'ils font, eux, effectivement. Donc, on a de plus en plus de mal à embaucher. Parce que les gens disent, ouais, mais une heure et demie de transport pour venir travailler parce qu'avec la paye que vous me donnez, et ça, c'est de la souffrance au travail. Et la souffrance au travail, elle est en train de s'installer. Et là, je pense qu'elle a dépassé ceux des petites mains, c'est-à-dire que ça s'attaque aux cadres et aux cadres supérieurs.
C'est le cas, la SNCF?
Bien sûr. Depuis 3-4 ans, vous avez, il y a eu des choses qui se sont instaurées, c'est-à-dire par exemple le forfait jour. Le forfait jour permettait aux cadres de pouvoir peut-être faire des journées à 12 heures, à 13 heures, et puis de se récupérer. Mais à la fin de l'année, il fallait que dans ces semaines, il ait fait 35 heures par semaine, dans le compte du temps. Enfin, là, la situation, elle est tellement désespérante qu'il y a des cadres qui commencent à 6 heures du matin et qui s'en vont à 20 heures le soir. Et ça, pas une fois, pas deux fois, mais toute la semaine, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que pour faire des économies, on a supprimé des postes, on a fusionné, mais qui dit fusion des suppressions de postes à chaque fois, parce que Madame Pécresse nous en demande, hein, parce que Madame Pécresse, la seule fois où elle est venue sur le site, c'était pour inaugurer les rames Régio de Zen, qui ont très mal fonctionné au début, d'ailleurs. Elle a été accueillie avec un tapis rouge, tout au long du truc, elle n'a croisé aucun cheminot. C'est nous qui avons demandé qu'elle vienne parce qu'on avait justement l'intention de lui parler et elle s'est arrêtée en repartant parce qu'on a été lui demander. Mais par contre, elle ne tient pas en compte que ses décisions, à faire du moins, mettent de la souffrance et sur les exécutants et sur les maîtrises et sur les cadres et maintenant sur les cadres supérieurs. Et
d'ailleurs, c'est elle qui va demander au moment de la Covid justement de réduire le nombre de transports. La fréquence est également de plus embaucher. Bon, maintenant on a vu le résultat.
D'ailleurs, excusez-moi, nombre de trains qui n'est pas revenu à la normale par rapport au début du Covid.
Tout à fait, parce qu'il manque de personnel. Il suffit de la ligne L, un exemple, par manque de personnel, etc. Il y a des trains qui sont supprimés. On va allonger les délais entre les trains. Bon, Monsieur Yann Piroli, je rappelle, responsable syndicat CGT cheminots. Dernière question, mais je pense que ça va revenir sur le tapis. Le 3 février, une proposition de loi qui a été présentée au Sénat pour réglementer l'exercice du droit de grève. Ça, au niveau des transports, un commun public et privé, à savoir d'empêcher les grèves des deux et les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période vacances et également à compter de la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense que on a un gouvernement qui, à la sortie des premières manifestations historiques en termes de nombre de personnes et effectivement avec des personnes qui ne s'étaient jamais mis en grève, qui n'avaient jamais participé à une manifestation, elles étaient dans la rue. Mmh. Et on a un taux qui est monté à plus de 2,3 millions. À la sortie de ça, vous avez un gouvernement qui vous dit « Bon, le droit de grève, vous y avez le droit, c'est très bien, c'est dans la Constitution, faites grève. » Ils se foutent de nous ou quoi? Ils disent « Oui, faites grève, allez-y, mais on s'en fout en vrai. » Ça, c'est la réponse du gouvernement. Sauf que là, ça commence à aller de plus en plus. Il y a de plus en plus de grèves. Quand vous faites une grève, hélas, je dis bien hélas, La construction de la grève, c'est quoi ? C'est vous avez des négociations, vous parlez, et quand vous n'êtes pas entendu, vous êtes obligé de passer par la grève. Et bien là, ce qu'on veut, c'est nous mettre dans des positions de faire grève, dans des moments où ça dérange strictement personne, et comme ça, on pourra faire grève même 10 ans si on le veut, de toute façon, il n'y aura pas de répercussions, donc on continuera à se foutre de nous. Hélas, quand il y a une... Je dis bien hélas, parce que c'est pas amusant. Et de perdre de l'argent, parce que contrairement aux grands fantasmes qui existent, les cheminots, quand ils font grève, on n'est pas payé. Et j'invite n'importe qui à regarder les fiches de paye de n'importe quel cheminot qui était en grève. Et puis deuxièmement, effectivement, de se dire, les usagers, ça nous embête aussi qu'ils n'aillent pas au travail pour gagner leur vie. Sauf que si le 7, le 8, le 9, on ne part pas sur des grèves massives, tout le monde va le regretter fortement.
Mais la réforme des retraites, ça touche tout le monde.
Exactement.
Monsieur Yann Pirolli, merci. Je rappelle le responsable syndicat CGT Cheminots. Et quitte à faire une BD qui date déjà de 2020.
Exactement.
Un train d'enfer, une BD, enquête dessinée sur la SNCF et la privatisation du rail. Ça, c'était publié par les éditions La Ville Brûle. Bon, ouais. Ça sera une bonne matière.
À lire.
Et en plus, BD. Monsieur Pirolli, merci. Et bien sûr, on rappelle à partir du 7, grève partout, dans la mesure où tous les secteurs de l'économie vont être mobilisés contre la réforme des retraites du gouvernement, présidé ou dirigé par Madame Elisabeth Borne. Merci.
Merci à vous.
Aqui ao direto programa Passagem Nível na vossa companhia até às 14 horas, lembro o programa com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E há muito tempo que não venho aqui em Paris, não é desta vez, quero referir a Mísia, que tem realizado o certo número de espetáculos a nível da França e ontem estava em Lyon. Já agora um abraço para aqueles que nos podem ouvir em Lyon, mas igualmente em Strasbourg e em Lille, através do DAB+. E Mísia, bom, uma pequenina evocação e vem lágrima.
Já me ficou no meu peito este jeito, o jeito de te querer tanto. Se eu soubesse que morrendo habías, tú me habías de llorar por una lágrima, por una lágrima tua, qué alegría me dejaría
uma canção da Amália, Amália Café, com Mise Mise, que esteve ontem em concerto aonde, em Lyon. Lyon, onde se pode ouvir a Rádio Alfa, lembro, através do DAB+, tem em Lyon, mas também em Estrasburgo, e em Lille. Agora, vamos um pouco mais longe, ainda que passe igualmente pela região parisiense, quero referir à ajuda humanitária às populações do norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado. Centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas vítimas de ataques terroristas. O nosso convidado, e a terceira entrevista que realizamos, com Kevin Goldberg, diretor-geral da ONG Solidariedade Internacional, que terminou uma visita de trabalho no terreno para avaliar as necessidades das populações vítimas desses ataques terroristas. Quisemos saber um pouco mais que conclusões a Kevin Goldberg tirou dessa sua dessa estadia de trabalho. É um rapaz ao Moçambique, justement, où près de millions de personnes ont dû quitter leur maison, là où ils vivaient, là où ils laboraient les champs, à cause d'attaques terroristes. Avec nous, pour la troisième fois, on a Monsieur Kevin Goldberg, directeur général de l'ONG Solidarité Internationale. Monsieur Goldberg, merci et bonjour à nouveau.
Eh bien, bonjour et merci de m'accueillir pour cette troisième session.
Voilà, donc votre voyage de travail, justement, au nord du Moçambique, région de Cap Delgado, est terminé. Quelles conclusions vous avez tirées de ces deux semaines passées, justement, au Moçambique ?
Eh bien oui, en effet, je suis de retour en France et j'ai eu l'occasion, pour la fin de cette visite, de me rendre quelques jours à Maputo pour rencontrer nos différents partenaires et institutions. Je reviens du Mozambique avec beaucoup d'éléments à l'esprit, bien sûr. D'abord, j'ai pu vérifier in situ la complexité de cette crise, dans laquelle on a un empilement de causes qui amène à ce que la situation des personnes vulnérables soit particulièrement difficile. Je pense évidemment aux violences qui existent dans le Cabo Delgado, mais aussi à tout ce contexte des événements climatiques violents qui touchent régulièrement la région. Vous l'aurez noté, le cyclone Freddy, qui a occupé l'actualité cette dernière semaine, est arrivé au Mozambique sous la forme de tempête tropicale qui aura heureusement des effets un peu moindres de ce qui était à craindre. Mais ce type d'événements fréquents, inondations, cyclones, etc., touche très régulièrement cette région et appelle bien sûr la fragilité de ce pays et sa capacité à répondre aux besoins nécessaires des gens.
Donc, vos constatations, bon, les besoins sont énormes. Qu'est-ce que Solidarité Internationale va faire? Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Je pense que vous allez faire le bilan avec vos collègues, bien entendu. Mais vous avez déjà des pistes, des choses qui sont vraiment urgentes, qui sont prioritaires?
Alors, d'une part, on fait déjà beaucoup. Solidarité Internationale est présent maintenant avec plus de 200 employés au Mozambique, à la fois des expatriés, mais aussi beaucoup d'employés mozambicains, la grande majorité de nos équipes. On intervient désormais dans trois localités différentes, trois régions différentes, enfin trois districts différents, et on est en train de voir comment aller sur une quatrième partie du Cabo Delgado. On aide aujourd'hui environ 150 000 personnes.
150 000 personnes.
Voilà, c'est un chiffre tout à fait remarquable au regard du fait qu'on a commencé notre activité en 2021. Donc la montée en puissance de notre réponse humanitaire est importante dans le pays. On est bien sûr qu'une petite goutte d'eau au regard de l'ensemble des besoins. Et surtout, on essaie de voir comment faire pour que la réponse qu'on apporte aux personnes vulnérables soit la plus durable possible. Je prends un exemple. On intervient notamment sur le sujet de l'accès à l'eau dans les camps déplacés. Je crois que j'avais pu en dire un mot la semaine dernière. Cette problématique de l'accès à l'eau, aujourd'hui, elle est majeure, notamment pour toute la région de Mueda, qui est donc une des îles du Cabo Delgado, et dans laquelle se situe sur un plateau qui rend très difficile le fait de faire des forages qui permettent d'avoir un accès direct à l'eau. Et malheureusement, c'est aussi autour de cette région que beaucoup de personnes qui ont quitté la zone côtière du fait des attaques qui ont eu lieu il y a quelques mois sont venues se réfugier à l'intérieur des terres et se retrouvent sur ce plateau avec un accès difficile à l'eau. Aujourd'hui, nous, ce que l'on fait, c'est que l'on organise une logique de distribution de l'eau qui est apportée dans des camps déplacés, dans des fontaines, des installations qu'on a installées nous-mêmes. Elle est apportée par camions. Ce système de camions citernes qui sillonne désormais les routes de cette région, concrètement, il est évidemment complexe à organiser. Là, c'est un savoir-faire que notre ONG a, parce qu'elle le fait dans plusieurs régions du monde, mais il est aussi très coûteux. Vous amenez l'eau avec un camion, un chauffeur, il faut aller chercher à la source pour vérifier qu'elle est bien potable, il faut la tester et ensuite la distribuer, se déplacer dans les camps. Donc notre souhait, c'est autant que faire se peut de basculer vers un système plus pérenne où on aura des systèmes d'irrigation d'installation d'eau qui permettent avec des réseaux d'eau d'amener l'eau potable directement auprès des personnes. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent et ça prend du temps. Et donc là, on est face à une problématique qui est comment est-ce qu'on fait pour, dans l'immédiat, répondre à cette urgence de milliers de personnes qui ont besoin d'eau dans ces contextes et en même temps prévoir venir en proposant des solutions plus pérennes.
Oui, mais au même temps, je pense que vous avez parlé déjà de ça, je sais pas si c'est la semaine dernière ou celle d'avant. Justement, le besoin, c'est que les gens qui puissent labourer la terre, et qu'ils puissent tout simplement, justement, continuer à vivre, mais pas être désassistés et pas attendre que les choses arrivent par les ONG. Donc ça, je pense que ça fait partie de vos besoins et surtout de vos pistes.
Disons que concrètement, ce qu'on espère, et nous on est là pour répondre à une situation d'urgence, hein, une réponse à un choc, ce qu'on espère c'est qu'au plus vite possible, l'État mozambicain et les organisations mozambicaines puissent répondre aux besoins de la population mozambicaine. Donc on est vraiment là en appui à un moment où, pour des causes de sécurité par exemple, il est difficile pour les services mozambicains d'agir dans certaines zones dans lesquelles nous allons en tant que humanitaire. On est aussi là pour avoir une réponse temporaire, et laisser place dès que possible aux institutions et organisations mozambicaines. Sur le cas des réseaux d'eau que je mentionnais, c'est très typique du type d'intervention qu'on essaie de faire, puisque là, clairement, l'acteur mozambicain est très présent dans le pays, puisque dans la mise en place de ce réseau d'eau, ça ne peut être fait qu'avec et pour les autorités locales qui organisent les réseaux d'eau.
Voilà, et que les populations puissent, si possible, le plus vite possible aussi, retourner chez eux. Entre-temps, apparemment, il y a le choléra qui se manifeste à nouveau, et selon un responsable mozambicain, je parle d'une dépêche qui date du 22, il y aurait déjà eu 37 morts. Est-ce que vous êtes au courant de cette épidémie de choléra à nouveau?
Alors, en effet, je vous le disais, malheureusement pour le Mozambique, une succession de difficultés qui pèsent sur ce pays. La question des maladies hydriques, dont le choléra est, je dirais, la maladie la plus emblématique, elle est régulièrement posée dès lors que les personnes n'ont pas accès à des moyens simples d'eau potable et d'hygiène. Et donc concrètement, sur le choléra, on a une épidémie de choléra qui existe au Malawi. C'est une épidémie qui, malheureusement, aussi touche petit à petit le Mozambique, puisque le choléra, comme une épidémie, se diffuse. C'est dans une partie du pays dans laquelle aujourd'hui on n'intervient pas encore. On est en train de regarder s'il est possible pour nous d'y agir, pour venir en appui. Agir face au choléra, ça veut dire quoi? C'est concrètement mettre en place des protocoles sanitaires qui incluent pleinement la population locale pour qu'elle comprenne la maladie et qu'elle puisse adopter toute une série de gestes qui permettent de la diminuer, de diminuer son risque qu'elle s'étende. C'est aussi aider les centres de santé qui vont accueillir les personnes qui sont même malades et de faire notre possible pour les sauver de cette maladie qui est malheureusement assez terrible.
Voilà, et apparemment le gouvernement, le ministre de la Santé mozambicain, qui a parlé également qu'ils vont lancer une campagne vaccination et qu'un possible va toucher un petit peu plus de 700 000 personnes. Bon, Monsieur Goldberg, tout à l'heure vous avez parlé justement des besoins, et je pense que pour nous, ici européens et plus particulièrement en France, c'est financièrement qu'on peut aider, avec laquelle vous pouvez travailler au Mozambique.
Alors je confirme que le Mozambique est un État qui a besoin aujourd'hui d'un soutien international pour arriver à répondre aux besoins essentiels de sa population, au moins en tout cas dans les zones les plus touchées par les crises humanitaires et notamment au Cabo Delgado. C'est cette aide, elle transite à la fois par les États, mais elle vient aussi de la population, des gens qui souhaitent aider les acteurs humanitaires à agir sur le terrain. Et donc, bien sûr, Solidarité Internationale aujourd'hui bénéficie de dons de personnes, donc, vous, moi, toute personne qui souhaite à un moment contribuer financièrement à l'action humanitaire sur le terrain. Et on a naturellement à cœur d'inviter d'autres personnes à se joindre à ce mouvement, de façon à ce qu'on puisse agir plus et finalement toucher plus de monde. Avec une idée qui est très forte chez nous, dans notre façon de penser, notre réponse au Mozambique, qui est, il faut aller chercher, il faut aller jusqu'aux gens qui sont dans des endroits qui ne sont pas aujourd'hui atteints par l'aide. Donc ça veut dire faire face à une difficulté logistique, mais aussi des questions de sécurité, pour atteindre ces personnes qui aujourd'hui ne bénéficient pas de l'aide humanitaire, pour qu'on puisse demain leur apporter de quoi survivre, à boire, à manger, et plus si possible.
Une dernière question, M. Goldberg. Est-ce que finalement l'Europe, là je parle de l'Union européenne, dans son programme de Mozambique, est dedans pour aider la population ou pas?
Alors tout à fait. Je vous disais tout à l'heure que j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de rendez-vous à Maputo avant de repartir vers la France. Parmi ces rendez-vous, j'ai pu me rendre au siège donc, de la délégation de l'Union européenne pour le Mozambique. Délégation qui est donc tout à fait active sur la crise mozambicaine, à travers deux cadeaux, donc à la fois le cadeau humanitaire, l'Union européenne est aujourd'hui un des grands financeurs de l'action humanitaire autour du monde, et elle se fait aussi à Mozambique, mais aussi à travers tout le canal du développement, avec des logiques de long terme, de relance du pays agricole, de lancement d'infrastructures. Et donc là pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on puisse activer ces deux leviers pour encore une fois qu'il y ait une réponse ne soit pas que de court terme.
Voilà, tout à fait. Monsieur Kevin Goldberg, merci. Je rappelle le directeur général de l'organisation non gouvernementale Solidarité Internationale. On va suivre votre travail au Mozambique et pas seulement, parce qu'entre-temps, il y a d'autres fronts un peu partout dans le monde que malheureusement,
Malheureusement, l'actualité mondiale ne s'arrête pas, en effet.
Merci.
Merci encore pour votre accueil. Au revoir.
É precisamente Moçambique, ouvimos a terceira entrevista que realizamos com a Kevin Goldberg, diretor-geral da ONG Solidarité Internacional, depois de uma visita de trabalho que ele fez ao território. Situação difícil, mas enfim, mas também é necessário música e falemos de coisas agradáveis. 40 anos de carreira de quem? De Stuart Sukuma, nem mais nem menos, e feliz minha. Vamos a isso.
Terra, e eu estou apaixonado.
Apaixonado.
Feliz minha menina do meu bairro, quero ser teu namorado.
Namorado.
Feliz minha menina da minha terra, e eu estou apaixonado.
Apaixonado.
Feliz minha menina do meu bairro, quero ser teu namorado.
Namorado.
Julieta, acabou. Josefina, não quero mais. Nem Zumanga, nem outra mulher. Eu quero Tati Filhos Minha. Vem acabar meu sofrimento.
Sofrimento.
Feliz minha menina do meu bairro, sou pedir-te em casamento.
Casamento.
Feliz minha menina da minha terra, vem acabar meu sofrimento.
Sofrimento.
Feliz minha menina do meu bairro, sou pedir-te em casamento. Acabou, Josefina, não quero mais. Nem Zumanga, nem outra mulher.
só com cantor cantor moçambicano. Era a relação com a entrevista que fizemos há instantes. Entretanto, meus amigos, é que não esquecer que está mais um Festival da Gastronomia. Vai ser entre os dias 10 e 19 de março, onde na Sala Vasco da Gama, nas instalações da Rádio Alfa, em parceria com o restaurante O Cortiço de Viseu. Festival da Gastronomia Portuguesa e pode almoçar ou jantar aqui de entre 10 e 19 de março. O número de telefone para reservar ou ter mais informações: 01 4510 98 66. Realmente relembro que continuam abertas as inscrições nas secções internacionais de português aqui na região Presidência, e não só, é isso que nos interessa mais diretamente: em São Clube, École La Monterre Couteau, Collège Émile Verhardin, Lycée Alexandre Dumas. Departamento 94, temos o Collège Henri Kahn em Brie sur Marne, Fontainebleau, Departamento 77, Collège Lucien César, 78, Saint-Germain-en-Laye, Lycée International, l'EPEC, École La Monterre Normandie-Niemen et Collège Pierre et Marie Curie. Departamento 91, Collège La Nacelle, que se encontra em Corbeil-Essonne, sem esquecer Paris, já agora, Collège Lycée Montaigne em Paris 6, mas ainda também o quê? Há que não esquecer, Honoré de Balzac, que se encontra no 17º bairro. E nós estamos nos aproximar tranquilamente das 13 horas. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 26 de fevereiro. Tínhamos já falado das propostas do PS e do PSD relativamente às competências e, igualmente, o apoio ao funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Surgiu outra proposta de lei, desta feita, do Partido Comunista Português. Infelizmente, estava previsto, precisamente, que ele entrasse connosco via telefone por volta de 12:30. Não é possível. Peço imensa desculpa aos nossos ouvintes desse facto, mas vamos até Portugal, ainda que através da literatura e não só através da história, com o livro Lisbonne, Ville Ouverte, de Patrick Straumann, nas edições Chandenha, Lisboa 1940. Já podem ver, depois da ocupação de Paris e do fecho de todos os portos mediterrâneos, a capital portuguesa era a única que oferecia que uma porta de saída numa Europa que estava em guerra, refugiados políticos de todas as origens, apátridas, anónimos, intelectuais e artistas, tal como Man Ray, Julian Green, Anna Arendt, fogem à ocupação nazi, a França estava ocupada, e atravessam os Pirineus na esperança de encontrar um lugar a bordo de um navio para embarcarem com destino ao outro lado do Atlântico, como quem diz Nova Iorque ou ainda Rio de Janeiro. Lisbonne, Ville Ouverte, Patrick Straumann. Patrick Straumann, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y avait une drôle d'ambiance à Lisbonne, justement, en 1939-1940, mais on pourrait dire en résumé que finalement l'Europe, c'était un grand camp de concentration avec une seule sortie, c'était Lisbonne.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y avait déjà, à partir de la fin des années 30, beaucoup de réfugiés qui essayaient de quitter l'Europe et qui mettaient tout en œuvre pour trouver une place sur un des navires qui traversait l'océan Atlantique. Avec la chute de Paris et puis la fermeture conséquente des ports, notamment de Marseille, Lisbonne devenait la dernière, littéralement la dernière porte de sortie que l'Europe pouvait offrir aux réfugiés. Et donc, à partir donc, de juin 1940, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui quittaient, beaucoup avaient déjà quitté l'Allemagne ou l'Autriche ou l'Europe de l'Est, l'Europe centrale à l'époque. Et avec la chute de Paris, donc même les Français, ceux qui pouvaient, se sont dirigés vers la frontière espagnole, ont essayé de traverser avec beaucoup de mal pour certains, ont traversé l'Espagne pour arriver à Lisbonne et espérer pouvoir donc embarquer sur un des navires qui faisait la traversée vers New York, ou Rio ou un port mexicain. Donc là, effectivement, la ville était évidemment pas du tout préparé, disons, pour cette arrivée massive de réfugiés, mais la ville, les habitants et jusqu'à un certain degré aussi l'administration ont effectivement, d'une façon tout à fait admirable, quand on regarde cette situation avec les yeux d'aujourd'hui, on réussit à administrer cette situation et à permettre à beaucoup de gens de quitter l'Europe et donc d'avoir leur vie sauve.
Alors, des dizaines de milliers de réfugiés, bon, il y avait des anonymes, des intellectuels et des artistes, parce que c'est incroyable le nombre d'intellectuels et artistes, je pense Saint-Exupéry par exemple, et pas seulement, c'est-à-dire c'est énorme tous les gens qui ont été sauvés du nazisme finalement.
Oui, alors c'est tout à fait, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, en fait, c'est mon éditrice Anne Lima qui m'avait fait remarquer un jour qu'elle avait vu à la suite une exposition que le photographe Roman Wisniak avait pu quitter l'Europe en passant par Lisbonne. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, j'ai découvert que Wisniak avait embarqué sur le même bateau que Saint-Exupéry, que vous venez de mentionner, mais aussi Jean Renoir. Alors du coup, je me suis dit que des trois personnalités aussi différentes, un photographe, un écrivain et un cinéaste, se retrouvent tout en ayant des biographies et des vies tout à fait différentes, finissent par se retrouver sur le même bateau pour se réfugier à New York. Ça m'a paru tout à fait extraordinaire et ça m'a paru aussi dire quelque chose sur le statut que pouvait avoir Lisbonne à cette époque pour tous ceux qui souhaitaient qui essaient d'avoir la vie sauve et de sortir d'une Europe en guerre.
J'ai l'impression que c'est avec ces recherches que vous avez su que votre grand-père était passé par Lisbonne, bon, pour d'autres raisons, je rappelle.
Oui, alors ça, c'était effectivement très intéressant. Pour moi, c'était pas une révélation, j'ai toujours su qu'il avait effectivement, lui aussi, traversé Lisbonne, mais j'ai toujours, c'était un peu une histoire comme ça qui était un peu en courait sous la, qui n'était pas vraiment mentionnée, mais il me semblait, quand j'étais jeune, il m'en avait parlé une fois, j'avais surtout le souvenir de la description véritablement apocalyptique qu'il m'avait livré de sa traversée d'Espagne, qui était, il faut pas oublier que l'Espagne était à l'époque, évidemment, complètement détruite par la guerre civile en 1940, l'Espagne est sortie de 3-4 années de guerre civile. Le pays était exsangue et pour tous les voyageurs, le contraste était énorme entre cette Espagne au bord de la famine. Il arrivait à Lisbonne où, contrairement au reste de l'Europe, les lumières étaient brillées la nuit, on pouvait circuler en voiture sans avoir les phares baissés. Donc il y avait c'était vraiment une ville qui était en liberté relative. Enfin, c'était quand même une ville qui était, n'était pas immédiatement menacée par la guerre. Et qui contrastait énormément par ce que les gens avaient pu voir lorsqu'ils avaient traversé l'Espagne. Et j'avais ce récit en tête de mon grand-père, mais j'avais pas vraiment mis chronologiquement je m'étais pas vraiment intéressé à l'amener pendant où il avait fait ce voyage, ni pour les raisons. Et c'est en travaillant donc sur ces réfugiés qui sont passés par l'Espagne que je me suis rappelé de ça et je me suis un peu plongé dans ces documents, et puis là j'ai vu qu'il était il avait entrepris ce voyage fin 40, c'est-à-dire il est parti au mois de septembre 40, il est rentré en novembre en Suisse, c'est ce qui m'a tout à fait paru stupéfiant et vraiment étonnant, et il est décédé il y a une vingtaine d'années, je n'ai pas eu l'occasion évidemment de lui poser la question, c'est comme il était d'origine juive, ça m'a paru assez extravagant que fin 40, un juif puisse on a un bateau pour retourner de New York vers
l'Europe. Suisse. Vous citez un certain nombre d'œuvres, c'est-à-dire d'écrivains et pas seulement, parce que bon, il y a plusieurs petits portraits petits ou grands portraits dans le livre. Et tout à l'heure vous avez parlé de lumière. Justement, je pense que la plupart des témoignages parlent de cette lumière de Lisbonne.
Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a frappé absolument tous, indépendamment de la différence qu'il pouvait y avoir entre ces personnalités, mais tous étaient frappés, je dirais, par la vivacité de Lisbonne la nuit, de l'animation, les restaurants, les bars, l'éclairage de la ville, c'était vraiment la ville lumière. Et puis, il faut dire aussi que le jour, les gens étaient, venant de toutes les régions, les régions les plus diverses de l'Europe, étaient frappés par la beauté de la lumière. De la lumière atlantique dans laquelle baigne Lisbonne. Donc c'était vraiment la ville, je pense que c'est... Alors, c'est assez contrasté, parce que les gens avaient dans beaucoup de ces témoignages, on découvre une véritable révélation en arrivant à Lisbonne. Ils étaient séduits par la beauté de la ville, et en même temps, on sent que c'est pas vraiment leur préoccupation de réfléchir sur cette ville. Au fond, tout le monde voulait s'en sortir. Donc, paradoxalement, tout le monde mentionne avec deux, trois phrases les sentiments qui les animent lorsqu'ils arrivent enfin dans cette ville, et ce qu'ils éprouvent lorsqu'ils voient cette société qui du coup a une vie, il y a une vie nocturne vraiment assez, encore une fois, en ce qui concerne les restaurants, les cafés, etc. Il y avait une liberté comme ça qui n'était absolument plus possible dans le reste de l'Europe. En même temps, dans la journée, il y avait cette beauté de la lumière naturelle, mais tout le monde se disait aussi comment est-ce que j'arrive donc à remplir une place dans une cabine d'un transatlantique, comment est-ce que je fais pour avoir un visa brésilien ou américain ou mexicain. Enfin, les gens étaient à la fois tiraillés entre, je dirais, les besoins immédiats qui étaient urgents et puis cette fascination qu'ils avaient éprouvée pour la ville.
D'ailleurs, ça n'a pas été pacifique avec la police et avec le régime fasciste, dans la mesure où il y avait des femmes européennes qui fumaient dans les terrasses des cafés, et ça, alors, c'était très, très, très mal vu au Portugal. Mais enfin, je pense.
Alors, il y avait effectivement un petit choc culturel, les femmes, déjà certaines qui tournaient en pantalon, ou qui fumaient, ou même qui rentraient dans les bars étaient quand même majoritairement fréquentés par les hommes, même si, effectivement, il y avait, je pense, une aussi, c'était aussi une vraie rencontre pour la société lisboète, parce que là, il y avait quelques... Alors la presse parle de façon assez pudique de la nouvelle mode qu'on pouvait découvrir sur les plages des alentours de Lisbonne. C'est évidemment une mode qui est apportée par les réfugiés. Ce ne sont pas des, c'est pas des revues de mode qui ont imposé une nouvelle ligne. Mais il y a là, je pense, effectivement, il y a eu un petit choc par rapport au fait que les milieux conservateurs pouvaient effectivement être un peu ébranlés en voyant ces mœurs. Beaucoup de gens avaient un arrière-plan un peu... Il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient réfugiés parce que juifs, il y en avait beaucoup qui étaient réfugiés parce que socialistes ou communistes, d'autres parce qu'ils pensaient libertaires ou autres, mais pour ceux qui avaient une formation, une idéologie un peu socialiste, évidemment, il y avait toujours un peu en filigrane l'idée de l'émancipation de la femme qui n'était pas vraiment à l'époque, à l'ordre du jour, à Lisbonne
là. Loin de là, loin de là. Et justement, bah, il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, le régime fasciste a institué un maillot de bain. Bon, pour les hommes et pour les femmes. Mais enfin, laissons tout ça. Alors, Patrick Stroman, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Ville verte, récit Lisbonne 1940, chez Chandaigne. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Menos fizemos uma passeata em Lisboa em 1940. Bom, estamos em 2023, precisamente vamos voltar a Lisboa, mas para falar de um assunto completamente diferente, algo que vai decorrer a partir do dia 3 de março e até o dia 19, algo que tem a ver igualmente com a cidade de Bayonne. Já lhe diremos calmamente. Que haja o silêncio avant qu'il n'y ait le silence. Fabio Lopes, bonjour.
Bonjour à tous.
Fabio, merci d'être avec nous. Alors, je pense à cette musique, bien entendu, je pense au spectacle que vous allez présenter, parce que c'est un ensemble de chorégraphies avec la compagnie nationale de Bailado. C'est un spectacle qui démarre le 3 mars, il se prend jusqu'au 19 mars. En réalité, c'est la compagnie nationale de Bailado dans ce grosse fugue de Anne-Thérèse de Kersmarker. Concrètement, como é que surgiu a proposta de levar a sua coreografia até Lisboa?
Bon, d'abord, c'est un grand plaisir de faire une création pour le Ballet National du Portugal. Mm-hmm. C'est une invitation de l'ancienne directrice Sofia Campos, que le nouveau directeur, donc Carlos Prado, a gardé, donc en répertoire. Donc, c'est une invitation. C'était à la base une invitation dans le cadre de la saison France-Portugal 2022, mais malheureusement, pour une question de planning, on a dû repousser à cette saison actuellement. Mm-hmm.
Donc, la grosse fugue, bon, mais avant qu'il n'y ait le silence, Fabio Lopes et Cacti d'Alexandre Ekman. Donc, comment ça va se passer, justement, la continuité du spectacle? Parce que, bon, ce sont trois choses différentes, finalement, ça se complète.
C'est vraiment trois choses très différentes. Mmh. Chaque chorégraphe est très différent dans le style. Anne Teresa de Kazmaker, c'est un style très contemporain. Ekman, c'est plutôt dans la performance. Et moi, je suis un auteur donc néoclassique. Donc, ça permet aussi au public de voir trois types de danses très, très différentes dans la même soirée. Alors, ils se regroupent, en fait, parce que toutes les trois pièces sont jouées en direct par un quatuor à cordes. Donc, on se regroupe par la musique.
Mmh. Bon, et comment est-ce qu'on pourrait expliquer votre chorégraphie? Que bon, il va falloir qu'on attende de la voir ici en France, mais enfin, peut-être pour nos auditeurs de loin, bon, la musique, ça donne déjà peut-être une couleur, c'est le cas de le dire, à votre travail.
Cette chorégraphie, c'est une chorégraphie faite sur mesure pour les danseurs du ballet national. Mmh. C'est des danseurs très classiques, ce que certains sont des danseurs étoiles, des solistes. Donc c'est une chorégraphie très néoclassique, dans le sens c'est sur pointe. Donc les costumes sont faits par José Antonio Tenin. Comme tout le monde sait, c'est un grand designer de mode et est maintenant costumier pour le théâtre, qui travaille souvent avec Thiago Rodriguez d'ailleurs, directeur du Festival d'Avignon. Donc c'est une chorégraphie très technique. Au niveau des pas, avec beaucoup de pas de deux, donc de contact entre hommes et filles. Et surtout, ce que j'ai voulu aussi, c'est que il y a une dimension, j'ai envie de dire, poétique. Donc, parce que cette musique de Gavin Bryars, donc c'est une musique austère, mais en même temps, il y a un côté presque religieux dedans. Il y a un côté très profond, donc j'ai voulu le représenter par la chorégraphie, cette partie-là.
Alors, pour les connaisseurs, ceux qui connaissent la danse, peut-être pour eux c'est évident, mais pour le grand public, je pense que vous faites un travail à Bayonne, justement, avec la compagnie Illicite, tout un travail de, je dis pas vulgarisation, je déteste ce terme, mais enfin, c'est que les gens, ils comprennent, bon, le lien entre la danse, la musique et tout ça, il y a tout un travail d'explication, disons, d'enseignement, entre guillemets, à faire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous faisons surtout avec des enfants de 6 à 10 ans, nous faisons tout un travail de sensibilisation, ce qu'on appelle éducation artistique et culturelle. Mmh. Déjà pour les nourrir à la danse et donner des clés, en fait, pour décortiquer parfois des spectacles qui sont plutôt, je dirais pas inaccessibles, mais c'est vrai que on a souvent déjà peur d'entrer dans un théâtre. C'est encore une réalité pour beaucoup de gens qui pensent que c'est pas pour eux. Donc il faut qu'on les ramène. Alors je pense, on fait un travail avec les enfants pour pas qu'ils aient peur de venir au théâtre à la danse et pour découvrir surtout découvrir les spectacles tout court.
Mmh. Alors Fabio Lopes, je sais aussi que vous faites un certain nombre, et la compagnie, des danseurs de la compagnie, des performances, je sais pas si je peux utiliser ce terme, dans la rue, même devant la gare et tout. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de faire en sorte que la danse sorte des salles de spectacle.
C'est vrai que je pense vraiment que c'est essentiel que la danse, que le spectacle ne soit pas que dans un théâtre. Depuis environ 3 ans, nous dansons chaque été devant la mairie. Nous avons déjà dansé aussi dans les cadres de Top Rose, dans des quartiers sensibles des villes. En fait, on va chercher aussi un public, finalement. Au lieu qu'ils viennent au théâtre, nous allons vers eux. Mmh. Et ça, c'est très, très important Donc c'est aussi une action des danseurs, bénévolat parfois. Nous avons aussi fait des étapes dans l'hôpital pour des enfants malades. Et ça, c'est une démarche presque personnelle. J'y tiens beaucoup parce que c'est difficile parfois dans cette étape, parfois ultime. Au moins, si on peut amener quelque chose de bonheur à ses enfants ou d'autres malades, la danse, elle peut être un vecteur de soulagement.
Tout à fait, et on sait comment. Tout ce qui est culture, on a besoin, et on a vu pendant la Covid, apparemment, la culture, c'était pas un bien essentiel. Bon, c'est une autre affaire. Donc, avant qu'il n'y ait le silence de Fabio Lopes, donc ça va être au théâtre. Je cherche le...
Théâtre
au Camoëche. Théâtre au Camoëche, ça y est. Merci de votre aide, Fabio. Justement, du 3 au 19 mars, mais il y a une autre date, très importante. C'est le 23 mars au Théâtre Michel Portal, scène nationale de Sud-Aquitaine. Justement, avec un programme. Nacho Duato, Mauro de Candia, Ballet National de Portugal et Fabio Lopes. Un spectacle, 18 danseurs, 70 minutes, tout public à partir de 7 ans. Peut-être expliquer un petit peu la genèse de ce projet.
En fait, depuis maintenant 2 ans, avec je suis artiste associé aux villes de Bayonne, Anglet et Biarritz. Mmh. Donc nous proposons un programme différent dans chaque ville. Alors, pour ce programme à Bayonne, j'ai envie de dire un contexte latin. Donc moi je suis portugais, Nacho Duato, grand chorégraphe international
italien.
Espagnol, et Mauro Di Candia est italien. Mmh. Donc il y a un peu les trois pays du sud avec une pièce donc de Mauro Di Candia qui aborde la tauromachie. Donc c'est à Bayonne où il y a donc les arènes. C'est intéressant d'aborder ce thème-là. Et d'une façon très légère, évidemment, on ne va pas chercher à définir ce c'est bien ou pas la tauromachie. Et donc, j'ai souhaité, pour compléter le programme, donc cette pièce que je suis en train de créer au Ballet National du Portugal, pour moi, c'est un bonheur qu'il puisse venir dans la ville où je suis associé.
Voilà, alors, mais c'est un spectacle qui lie la danse et la comédie. Une petite explication.
C'est vrai, la pièce de Mauro Di Candia, en tout cas, c'est une pièce qui est drôle, une pièce comique. Donc les danseurs, ils sont aussi des comédiens. Ils vont chercher, parce que c'est très difficile de faire rigoler le public. Très difficile, donc nous avons fait un travail là-dessus. Enfin, nous faisons un travail dessus parce que nous sommes encore en création. Et c'est très intéressant.
Voilà, donc j'ai dit 18 danseurs. Bon, et ça c'est au théâtre, c'est à Bayonne, hein, je dis pas de bêtises,
c'est à Bayonne.
National, Sud-Aquitaine. Alors, ce projet, bon, c'est un projet, mais apparemment, il y a des problèmes parce que c'est prévu le spectacle le 23 mars avec la présence de la Compagnie Nationale Bailave, mais entre-temps, il y a des choses qui arrivent, malheureusement, peut-être vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste, parce qu'il y a un problème pour produire ce spectacle, il n'est pas donné, mais il y a des gens qui vous ont fait faux bond. Qu'est-ce qui se passe?
Nous avons perdu un mécène, malheureusement, mm-hmm. qui était important. Aussi, les subventions publiques ont tendance à réduire. Donc nous cherchons des soutiens financiers actuellement, en espérant qu'on puisse arriver jusqu'à compléter le spectacle. Donc nous faisons tout avec les villes pour pouvoir le réaliser, évidemment. Nous avons perdu malheureusement une somme assez importante pour le budget de la compagnie. Donc nous sommes en train de faire face à tout ça actuellement.
Voilà, donc vous lancez une campagne participative de soutien et vous voulez récolter aux environs de 10 000 euros, c'est ça?
C'est ça, sous l'ICI. Donc les gens ils peuvent nous contacter directement pour un mécénat direct. Nous pouvons aussi, donc nous avons la possibilité de, au niveau des impôts, de 66% qui donc c'est ce droit. Donc c'est intéressant pour des entreprises ou des gens privés directement. S'ils veulent soutenir la danse, là, c'est avec grand plaisir.
Voilà, donc 68%, ça veut dire que si on fait un don de 100 euros, on réduit des impôts, finalement, des impôts, on ne paye que 32.
C'est ça.
32.
C'est ça.
Mais justement, la culture, bon, c'est quelque chose d'étonnant. C'est vrai qu'il y a la crise économique, les départements, les municipalités et tout ça, même les entreprises. On dirait que c'est le premier poste où on fait des, où on coupe, où on réduit les choses comme si la culture n'était pas nécessaire, Fabio Lopes.
Malheureusement, la culture. Bon, c'est vrai qu'on a vécu cette idée de, on n'est pas essentiel. On a très mal vécu cette idée-là. Mmh. Nous savons que Madame Bachelot a fait beaucoup de choses. Elle n'avait pas cette image-là. Mais c'est vrai que, bon, avec la guerre et tout ça, et la Covid, nous avons été assez massacrés, malheureusement. Donc là, nous reprenons, nous reprenons la chose en main. Et enfin. Même quand on était avec la Covid à la maison, je veux dire, nous avions accès à des plateformes pour voir des films. Nous avons accès à beaucoup de choses, des spectacles en ligne. Et finalement, la culture a été là, mais juste d'une autre façon.
Bon, donc, comme dirait l'autre, il faut vraiment tenir, hein, là, maintenant. Ouais, parce que le travail, ce projet, justement, bon, il est déjà en route. Vous avez déjà commencé depuis un certain temps à travailler sur ce projet.
Il est déjà en route, en effet. Mmh. Nous avons commencé en janvier. Et nous faisons tout pour l'aboutir et il sera abouti. Enfin, je souhaite de tout le cœur, évidemment. Donc, sinon, il sera reporté, de toute façon.
Voilà. Donc, bon, en principe, 23 mars. Donc, il faut
23
dire.
Mars.
23 mars, la compagnie nationale By Love vient de Lisbonne jusqu'ici et ça va se passer au théâtre Michel Portal de Bayonne, scène nationale du Sud-Aquitain. Fabio Lopes, peut-être rappeler quelle est la plateforme pour participer à cette opération?
Très bien, vous pouvez aller dans la plateforme Litchi. Mmh. Et donc le spectacle s'appelle Triple Bill. Alors, vous pouvez chercher aussi la compagnie Illicite Bayonne et vous me trouverez très facilement sur la plateforme.
Oui, tout à fait. Sinon, vous faites Fabio Lopes aussi. Lopes avec un Z. Il y a ce propos, Fabio. On avait déjà expliqué pourquoi. Vous voulez bien expliquer à nouveau le pourquoi le Z à Lopes.
Une explication. C'est une histoire très, très drôle. Mmh. Quand je suis parti à l'étranger, de façon assez récurrente, on se trompait dans mon nom de famille. Donc à un moment, j'étais chez Maurice Béjart, grand chorégraphe aussi, et tous les programmes étaient écrits avec un Z. Alors c'était des accidents, évidemment. Alors, j'ai souhaité, pour garder la même identité, pour avoir un rapport aussi avec ces programmes et avec cette partie de ma vie qui est si importante, d'avoir travaillé avec Maurice Béjart. De garder Z.
Voilà. Bon. Et maintenant, quand on vous dit, oh, Fabio Lopes, oh, c'est un espagnol. Bon. Enfin, bref. Bon, c'est vrai. Bon. L'Espagne, c'est de l'autre côté de la frontière. Bayonne, c'est pas loin. Fabio Lopes, je merci. Donc, je souhaite bon vent au programme Nacho Duato, Mauro de Candia et Ballet National de Portugal et Fabio Lopes. En avant. Fabio, merci. À très bientôt.
Merci à tous. Au revoir.
Merci. Au revoir. Estamos na reta final deste Passagem Nível, domingo, dia 26 de fevereiro. Estivemos em Lisboa, estivemos em Gomento e Bayonne e agora vamos para onde, meus amigos? Vamos nem mais nem menos para um concelho que se encontra localizado no centro de um triângulo geográfico cujos vértices se situam, além da sede distrito, as cidades de Aveiro e Figueira da Foz. Adivinha, não sei se podem ir até lá, mas enfim, não faz mal. A senhora Adérito Machado, muito bom dia para si, boa tarde para nós.
Olá, bom dia.
Muito
para
bom
nós
dia.
É bom dia, que temos aqui um solinho e está um dia fantástico mesmo.
Isso é que é extraordinário. Bom, e estamos em Cantanhede. Há que não esquecer, estamos em Cantanhede, terra de boa gente. Rima e até é verdade. Sr. Adérito Machado é vereador, tem vários pluros, entre os quais recursos naturais, desenvolvimento agrícola e florestal. Ora, precisamente o município de Cantanhede disponibilizou mais de 5 mil árvores de espécies autóctones para promover a biodiversidade, a proteção ambiental e prevenir os incêndios. Ora, precisamente, qual é a gênese deste projeto? Eu penso que foi a partir dos incêndios que assolaram toda a região e Portugal, de norte a sul.
É verdade. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Rádio Alfa, no fundo, dar voz ao nosso trabalho desenvolvido aqui no Conselho Cantanhense. Eu, como vereador, no fundo, fico grato e quero daqui também enviar cumprimentos para os nossos imigrantes que estão longe, mas que efetivamente vivem, tanto quanto nós, a sua terra. E é isso que nós acho que devemos continuar a fomentar e devemos, em parceria e em conjunto, desenvolver este projeto, que é um projeto que eu acho que tem pernas para andar e que é diferenciador. O que é que consiste este projeto? No fundo, fomos obrigados, com os incêndios de 2017, a cumprir. Os incêndios de 2017 vieram abanar a consciência cívica das pessoas. E o Estado português criou uma quantidade de legislação que, bem ou mal, tivemos que as implementar nós, os municípios, no terreno. Uma delas foi a gestão das faixas de gestão de combustíveis junto às vias principais, isto é, junto às estradas que são da competência do município. Consta em que, para nós falarmos em linguagem, sem ser linguagem técnica, muito simples, de cada lado da estrada tivemos que dizimar eucaliptos e pinheiros, que essencialmente são a floresta que existe no nosso concelho, tivemos que dizimar 10 metros, portanto, ficamos com uma faixa de gestão de combustível de 10 metros de cada lado, mais a estrada equivale a 30 metros. Esses 10 metros, se ficassem despidos, ficariam mal. E então nós achamos por bem adquirir árvores autóctones, que não são mais nem menos que as árvores nativas do nosso território, que são carvalhos portugueses, pinheimanso, o azevinho, o medronheiro, o sobreiro, os famosos castanheiros, os loureiros, entre outras árvores que os nossos imigrantes bem conhecem. E, portanto, o que fizemos foi entregar estas espécies às pessoas para que elas possam colocar, afastadas de 6 em 6 metros, junto à via. Queremos acreditar que, além de fazer uma contenção do incêndio na mesma, porque são árvores diferentes, que não são resinosas, não é? Também é interessante, porque vai criar, ao longo da via, uma paisagem muito interessante, diferenciadora, que é, no fundo, a paisagem que existia antes de nós chegarmos com os eucaliptos, não é verdade?
Mas, Sr. Vereador, precisamente, Portugal é um dos raros países da Europa, se não o único, que tem plantações de eucalipto. Uma vez que nós entramos no centro do país e vamos até Porto, e se vai, bom, de comboio, eucaliptos. Pois, sabemos que o eucalipto é mau para a terra, ainda por cima.
Mas olha, efetivamente só tem uma justificação. É o rendimento que o eucalipto dá. É que o meu amigo planta um pinheiro e o pinheiro, para estar pronto para corte, demora cerca de 40 anos para ter rentabilidade, não é? O eucalipto, passado 12 anos, ou melhor, de 10 em 10 anos, 3 vezes, produz sempre madeira e tem uma rentabilidade muito maior que o pinheiro. Além de que, neste momento em Portugal, raro é o espaço que num tempo de 40 anos não arda, não é? Mas é por isso que o eucalipto tem acento e cada vez mais é uma afirmação, porque cresce rapidamente, os terrenos estão extremamente férteis, tem muita água e desenvolve-se com grande qualidade, não é? Pois,
e tudo o que está à volta desaparece, para além da água também, não é? Mas é precisamente, é curioso, Portugal produz eucalipto, ou é terra, mas concretamente... Isso parte para o estrangeiro e depois regressa a Portugal em pastas de papel. Bom, isso é outra história.
Agora, não. É não? Feito mesmo cá, é tudo transformado cá.
Já é tudo transformado ainda, aumentado não era.
Na Figueira da Foz há duas...
Celuloses.
Celuloses e em Cacia também. Portanto, é tudo, até o papel já é transformado cá. Já sai daqui papel em rolo para o estrangeiro.
E a mesma aqui para a França. Mas, Sr. Vereador, precisamente a Cantanhia decidiu levar a cabo esta operação, mas noutros sítios e que foram vítimas também de incêndios, novamente eucaliptos. Porque, bom, vocês no município de Cantanhia tiveram outra atitude relativamente a isso. Porque é que outras câmaras não seguiram o vosso exemplo? Ou será que há outras câmaras que estão a fazer a mesma operação?
Nós tivemos um incêndio em 2017 que dizimou uma área enorme entre a Praia da Tocha e a Tocha. E nós também achamos que não podíamos ficar de braços cruzados e esperar que a natureza faça o seu papel. E então, o que é que implementamos? Implementamos a florestação em parceria com o Instituto da Natureza, o ICNF, uma reflorestação de 1.800 hectares, pinheiro manso, pinheiro bravo, de carvalhos também, e que está a ser já reflorestado. E esta é uma preocupação, mas sabe que, além de tudo, acho que as nossas serras cada vez estão mais propensas a incêndios por um simples facto. É que ou vem eucaliptos depois de passar o incêndio, porque o calor faz com que haja uma germinação muito maior das sementes do eucalipto, ou então vem uma quantidade enorme de acácias que é impossível controlá-las. E isso faz com que haja incêndios cíclicos cada vez mais neste país. Esta deve ser uma preocupação de todos, mas também das instituições do Estado, que eu acho que muitas vezes não fazem o papel que deviam fazer.
Sim, e tanto mais bom que temos uma seca enorme, altas temperaturas, cada vez menos chuva, e tanto mais que vocês em Cantanhede, é verdade que a floresta representa 62% da área total do concelho.
É verdade, é verdade. Daí a nossa preocupação. E de nós protegermos. É importante nós não sermos radicais e devastarmos a floresta no todo, só porque a floresta representa um perigo para a vivência das pessoas. Mas haver um equilíbrio entre a vivência das pessoas em segurança e a floresta. E por isso é que nós queremos este ponto de equilíbrio, que eu acho que é fundamental para se viver em equilíbrio com o meio ambiente. Não podemos ser radicais nem exterminar a floresta de uma vez, porque dependemos dela, como é evidente, não é?
Senhor Vereador, eu estou recordado, bom, mas enfim, penso que não sou o único, de ir aos pinhões. Porque antigamente havia, chamávamos, pinheiras mansas. Havia toda uma série de hábitos que nós tínhamos, ou que tinham as pessoas que viviam na que se chama província, mas digo província no bom sentido do termo, não é depreciativo, longe disso. Precisamente, certo número de coisas que desapareceram. Porquê? Porque automaticamente, como voltamos à história dos eucaliptos, é o lucro, o comércio, e não temos em conta nem a natureza, nem a população.
Sabe que, no fundo, Portugal era um país rural, não é? Essa é que tinha no setor primário 20 e tal, 30% da população ativa, dedicava-se ao setor primário. Neste momento temos 3, 4% da população que se dedica ao setor primário. Nessa altura, como é o Miguel Espinhais, havia a pecuária que se desenvolvia, cada casa tinha sempre animais que depois matavam e que era uma fonte também de rendimento para as famílias. Neste momento, até isso não é rentável. E aquele hábito de ir buscar o mato, de trazer a caruma, de fazer a limpeza e trazer a lenha, são hábitos que já estão fora do tradicional, da tradicional vivência de um povo, não é? Só quem faz isso já são os nossos avós, que ainda têm aqueles hábitos e porque vivem próximo da floresta, não é? Neste momento as pessoas compram fogões, não compram fogões de lenha como antigamente, já compram fogões ou elétricos ou então com as pellets que bem conhecemos, que são feitas nem mais nem menos de restos vegetais, não é? Mas transformados e que são caríssimos. Mas eu acho que temos que voltar outra vez ao início, que é a origem das coisas, que é voltar novamente a recolher lenha e a vivermos em parceria direta com a floresta.
E com a natureza, não é?
Bem, porque é a regressa às origens. É. Mas olha, a gente temos um exemplo. Nós, a população mundial passou, no fundo, carências alimentares. E veio os pesticidas e os herbicidas que vieram, no fundo, colmatar e combater essas carências. Não sei se foi bem, se foi mal, mas pelo menos houve menos fome, não é? Agora, o que é que surgiu passado, sei lá quantas décadas, voltamos à agricultura biológica, não é? E o que é bom é a agricultura biológica, toda a gente já sabia disso, mas no fundo é valorizar o que é natural e nós temos que cada vez mais pensar que não é o que nos é cómodo muitas vezes que é o melhor para nós.
O Sr. Vereador falou em instantes, primeiramente, como é que foi feita a seleção das árvores, porque essas árvores que foram, bom, estas 5 mil, digo bem 5 mil árvores, que foram facultadas pelo município...
Já foram, temos mais para dar.
Já lá vão as 25, as 5 mil, então?
Sim. Já temos muito mais aves para dar. Portanto, nós temos os carvalhos portugueses, não é? Uhum. O pinheirinho, que é tradicional, o azevinho, o medronheiro, o sobreiro, o castanheiro e os loureiros. Estas são as aves que eram as aves nativas do nosso território e que estão perfeitamente bem aqui, não é? Não vale a pena introduzirmos outras aves, nem sequer serão árvores nativas, podem ser árvores nativas de outro território, a norte ou a sul, não é? Estas são as nossas, que nós encontramos aqui e que disponibilizamos às pessoas para elas reflorestarem. E tem sido interessante, porque agora ficam alinhadas, aliás, estes 10 metros também, os sobreiros que existiam e os carvalhos ficaram. Uhum. E, portanto, não está totalmente despido, mesmo por muito pequenos que fossem, a empresa que fazia o desbaste deixou-os ficar. E as pessoas estão a ter cuidado. Isso também serve para mentalizar, no fundo, as pessoas de que há sempre algo que deve ser a nossa identidade. E, nesse caso, a nossa identidade autóctone, que é o mais importante, não é?
Mas todo esse trabalho da plantação das árvores é feita com a ajuda de técnicos. Há técnicos que ajudam.
É acompanhado, sim. São acompanhados, são os técnicos que vão ao local. As pessoas muitas vezes têm a noção que querem uma árvore específica de uma espécie para lá, quando o terreno não é indicado para o local, não é? Uhum. Então os técnicos aconselham, olha, você não deve colocar esta, deve colocar outra espécie que é a mais indicada para que isto consiga desenvolver-se e as árvores crescerem com qualidade, não é?
E foram seguidos por outros municípios ou não, Sr. Adérito Machado?
Meu ilustre amigo, eu neste momento não. Que eu tenha conhecimento, não. Nós somos pioneiros precisamente com esta dinâmica. Agora, eu acho que era importante haver replicação, porque o que é bom deve ser replicado, não se deve manter só para um, não é?
Há instantes, a senhora Adérito Machado falou de algo que me fez lembrar uma coisa. Aguardente de medronho.
Isso
desapareceu?
Mesmo.
Continua? Ou...
Não. Aguardente de medronho é algo que como, nós, como eu disse há um bocado em relação à agricultura biológica, aguardente de medronho era uma forma de vivência dos povos que não tinham álcool da serra, não é? Que tinham medronho, como não tinham uvas, transformavam o medronho em aguardente, a substituir a aguardente vínica, que não tinham vinho, não tinham uvas, e então transformavam. Neste momento, a aguardente de medronho e o cultivo mesmo do medronheiro, aliás, há uma associação de produtores de medronho no interior, cada vez mais está-se a afirmar. E é um produto que é muito apreciado, não só por quem nos visita, os nossos turistas, os nossos imigrantes que vêm, e também aqui na nossa região já há gente que recolhe medronho e que depois produz aguardente, porque é só para consumo, é para brincar, não é para venda, não é venda. Mais no interior, há que é para venda, não é?
Dá-se, e Algarve. Porque antigamente, bom, acontecia para a Serra da Estrela e não só, tínhamos medronheiro da à esquerda e à direita, à beira da estrada, antigamente.
Existe na mesma. Ele na existe. Zona da Pampilhosa da Serra, que é distrito de Coimbra, não é Pampilhosa da Serra, que o meu amigo bem conhece, que é distrito de Coimbra, e portanto está rodeada, mesmo depois dos incêndios, o medronheiro é uma árvore que resiste, que depois consegue arrebentar novamente. E então, há uma área enorme, mesmo na região de Penela, que é também próximo, existe uma área enorme envolvente das serras de medronheiros. São os pássaros, no fundo, que depois, ao consumirem os frutos, fazem a sementeira, digamos, que transportam para o outro lado e que são eles que são responsáveis pela reprodução do medronheiro, não é?
Com efeito, com toda uma série de animais e mesmo as abelhas e por aí afora. Uma pergunta ainda. Bom, Cantanhede apresentou uma candidatura que foi aprovada ao projeto Floresta Comum, projetos florestais ou de conservação da natureza, recuperação da biodiversidade. Mas significa que houve um apoio ao estatal ou regional para a vossa operação ou foi a Câmara que teve que financiar isto?
Não, isso foi um financiamento muito interessante. Para a lagoa dos codiçais na Tocha, em que nós estamos empenhados em fazer duas coisas. em implementar em conjunto com a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra um bichinho que se instala nas acácias e que se reproduz, evitando que elas se propaguem. Isto é, inibe a multiplicação pela semente. Depois, também, a nível da lagoa, queremos implementar uma quantidade de situações para, essencialmente, para retirar da lagoa as infestantes, que é a erva pinheirinha e os como é que se chama os...
Não posso ajudar, Silvio.
Não, é uma planta aquática que agora não estou... Os jacintos, que é uma praga. Como sabe, na Espanha, o rio, o Guadiana, está completamente repleto de jacintos. É uma praga completa e que o mondego já acontece. E nesta lagoa também está a começar a aparecer. As pessoas, por simpatia, porque aquilo dá uma flor muito bonita, e as pessoas, por simpatia, acabam por trazer inocentemente aquela praga, no fundo, para os lagos e para as lagoas. Agora já há consciência disso, mas já estão instalados e nós temos é que retirar da água. Aquilo só se combate retirando a água e colocando na margem a secar, não é? E é esta, foi essencialmente para esta candidatura que nós tivemos apoio.
Senhora Adérito Machado, relembro, vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, uma pequena pergunta pessoal. É técnico de análises clínicas e saúde pública.
É
de maneira que, quer dizer, tudo isto tem a ver com o trabalho que está a fazer a nível da natureza, finalmente?
Sabe que, e não além disso, tenho outra incumbência. Eu também sou presidente dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede. E, portanto, tenho uma sensibilidade enorme para a floresta, para quem combate os incêndios florestais e para o meio ambiente. E, portanto, esta é a nobre mentalidade que deve fazer parte de todos nós, porque eu sozinho nada consigo fazer, nem o município consegue fazer só por si. Deve congregar vontades, mostrar qual é o caminho e fazer com que acreditem que é o verdadeiro caminho a seguir, que é a proteção florestal, e no fundo o equilíbrio entre a floresta, o meio ambiente e o homem, não é? Este aqui é no fundo aquilo que nós devemos fazer, não sermos radicais e combatermos a floresta, esquecer que a floresta é bonita, mas a floresta também tem que ter retorno económico, senão é abandonada. Se a floresta não tiver retorno económico para quem se dedica à floresta, as pessoas devem pensar que em Portugal, essencialmente, não é? A maior área florestal pertence a pessoas particulares. E a floresta para eles, ou tem retorno financeiro e há um equilíbrio em relação ao retorno que tem e ao meio ambiente, ou então não vale a pena, eles abandonam-na completamente. É o que acontece às nossas terras, que estão completamente abandonadas. Porque já não têm interesse em desenvolver, no fundo, a parte de rendimento florestal, não tem retorno, é abandonado. E o que é que acontece? Ciclicamente ardem, é uma invasão total de acácias, há um abandono e um afastamento e um desprezo florestal em relação aos espaços, que antes não eram, nada disso acontecia.
Não, era tudo aproveitado. Senhora Adérito Machado, estamos a terminar, estamos a chegar às 14 horas. Peço imensa desculpa e só espero é que o projeto lançado pela Câmara Municipal de Cantanhede floresça. Não, é uma relação, está a ver? Floresça para esse país afora. Muito obrigado e até muito breve, então. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado.
E nós estamos a terminar esta passagem em nível, dia 26 de fevereiro, lembro, com a redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Obrigado, Manuel Alexandre, e damos encontro, espero bem, na próxima semana, ou seja, no domingo, dia 5 de março.